Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez technique, mais crucial pour l'IA, l'entraînement des grands modèles de langage.
Bonjour. Oui, et plus précisément, le défi de choisir les bonnes données. C'est souvent un vrai casse-tête. Et surtout, ça demande énormément de calculs.
Exactement. C'est un peu comme faire de la grande cuisine. Les ingrédients, leur qualité, leur mélange, c'est la base. Mais trouver la recette parfaite, sans passer des jours en cuisine.
C'est là qu'intervient une nouvelle approche assez prometteuse, décrite dans un résumé de recherche qu'on a regardé. Ça s'appelle Domaine-to-Vec.
Domaine-to-Vec, ok. Présenté par Moji Zhang et son équipe, c'est ça?
Un article accepté à ICML 2025.
Tout à fait. Et ce qu'on va explorer, c'est comment cette méthode, Domaine-to-Vec, propose de déterminer le mélange de données idéal avant de lancer l'entraînement complet.
Sans tous calculs préalables.
Alors ça m'intrigue. Comment c'est possible? L'idée clé, c'est de vectoriser les jeux de données. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
En gros, oui. L'idée est d'imaginer qu'un jeu de données complexe, c'est en fait une combinaison de, disons, d'ingrédients de base. Eux, ils appellent ça des métadomaines.
Des métadomaines, comme le type de texte, actualité, code, fiction, ce genre de choses.
Exactement. Des catégories fondamentales qui capturent l'essence des données. Domaine-to-Vec utilise ensuite un classificateur et un vocabulaire défini de ces métadomaines pour analyser un jeu de données.
Pour en sortir quoi? Une recette?
C'est une bonne image. Ça génère ce qu'ils appellent un vecteur de domaine. C'est comme une signature unique qui dit « Ce jeu de données, c'est X% de ça, Y% de ça, Z% de ça. » Ça représente les distributions des données sur ces fameux métadomaines.
D'accord. Donc on a cette signature, ce vecteur, pour chaque jeu de données potentiel. Et comment on passe de ça à prédire la meilleure recette d'entraînement?
Ah, voilà le cœur de l'astuce. Ça repose sur ce qu'ils appellent l'hypothèse d'alignement des distributions. Ou DA2, pour faire court.
DA2, ok. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette hypothèse?
L'intuition est assez simple, en fait. Si les données que vous utilisez pour entraîner votre modèle ressemblent beaucoup aux données qui serviront à l'évaluer...
Les données de validation, oui.
Alors, logiquement, le modèle devrait mieux s'en sortir. La perte de validation sera plus faible.
Logique. Et donc, ces vecteurs de domaine permettent de mesurer cette ressemblance, cet alignement.
Précisément. On compare le vecteur du mélange d'entraînement qu'on envisage avec le vecteur du jeu de données de validation. Plus les vecteurs sont proches, plus l'alignement est bon. Et donc, meilleure sera la performance attendue.
Sans avoir besoin de lancer l'entraînement pour vérifier?
On prédit le résultat avant.
C'est ça l'idée. On passe d'une approche très empirique, on teste et on voit, à quelque chose de prédictif. On optimise avant de dépenser les ressources.
Ça pourrait vraiment changer la donne. Est-ce que ça marche bien en pratique? Ils ont des résultats concrets dans le résumé?
Oui, et ils sont assez parlants. Par exemple, ils montrent qu'avec Domaine-to-Vec, on peut trouver un mélange de données qui atteint la même performance sur une tâche référence, PileCC,
okay.
Mais en utilisant seulement 51,5% du calcul qui était nécessaire avec le mélange d'origine de The Pile. Attendez, 51,5%. C'est quasiment la moitié moins de calcul, hein.
Oui, c'est une économie considérable. Pour le même résultat final.
Impressionnant. Et si on garde le même budget de calcul, est-ce qu'on obtient un meilleur modèle?
C'est l'autre point intéressant. À budget de calcul équivalent, le mélange optimisé grâce à Domaine-to-Vec améliore les performances sur les tâches en aval, en moyenne de 2,83%.
Donc c'est pas juste moins cher, c'est aussi potentiellement meilleur.
Exactement. On gagne sur les deux tableaux, efficacité et performance.
Bon. Pour résumer, Domaine-to-Vec, c'est une méthode pour choisir plus intelligemment ses données en amont. Ça rend l'entraînement moins coûteux, plus rapide et potentiellement, ça donne de meilleurs modèles. C'est une belle avancée pour cette étape qui est, on le sait, un gouffre à ressources.
Absolument. Et au-delà de l'aspect technique, c'est important. Rendre le développement de l'IA plus efficace, moins gourmand, ça peut démocratiser un peu l'accès. Permettre à plus d'équipes, peut-être plus petites, de développer des modèles performants.
C'est un point crucial. Ça ouvre des perspectives. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice.
Je vous écoute.
Si maintenant on peut, en quelque sorte, prédire le meilleur cocktail de données avant même de lancer la machine, quelles autres étapes du développement de l'IA pourraient être optimisées comme ça? Est-ce qu'on pourrait imaginer prédire la meilleure architecture réseau, les meilleurs hyperparamètres, sans tous ces essais coûteux?
C'est une excellente question. Anticiper plutôt qu'expérimenter à l'aveugle. Ça pourrait vraiment révolutionner la façon dont on conçoit l'IA.
De quoi nourrir nos réflexions futures. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Avec plaisir.